GDF Suez vous invite au Club Éco animé par Guy Moïse.
Club Éco avec aujourd'hui Geneviève Brichet qui préside l'association lyonnaise d'éthique économique et sociale et qui dirige aussi éthique et entreprise. Il s'agit de quoi en fait, une activité service des entreprises?
Absolument, qui conseille les entreprises dans leur stratégie de responsabilité sociétale.
Voilà. Alors la responsabilité sociale ou sociétale, eh bien parlons-en puisque l'actualité nous y incite d'ailleurs avec bien évidemment ce qui se passe chez France Télécom et qui fait malheureusement l'actualité tous les jours et encore aujourd'hui. Alors, vous avez réfléchi à ces problèmes bien en amont, puisqu'en fait, cette association lyonnaise d'éthique économique et sociale, elle se préoccupe avec ses cafés, ses ateliers de tous ces problèmes.
Bah écoutez, cette association a été montée, enfin a été créée en 1999. J'en ai pris la présidence il y a un an et demi. Et l'objet, c'est de sensibiliser les acteurs économiques, donc aussi bien les étudiants en fin de cursus que les entreprises, de l'importance de l'éthique, de mettre en place des politiques éthiques. Donc en effet, entre éthique et responsabilité sociétale, c'est très très proche.
Alors, vous ne vous limitez pas à un discours, vous avez une action sur le terrain, vous avez notamment, c'est assez sympathique d'ailleurs, des cafés éthiques.
Oui, chaque mois.
Ça se passe comment ça?
Écoutez, c'est extrêmement simple. On se retrouve tous les mois, les deuxièmes mardis de chaque mois, les troisièmes même mardis de chaque mois, dans un café. En l'occurrence, là, c'est le Café République à Lyon. Et pour parler d'un sujet, et là, aujourd'hui même, vous voyez, c'est le mécénat éthique et mécénat. Donc, c'est toujours éthique et quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est mécénat. On a parlé d'éthique et communication, on a parlé d'éthique et art, beaucoup de choses.
Des discussions, des brassages d'idées qui peuvent déboucher sur quelque chose de plus concret?
Alors oui, justement, ces cafés éthiques sont le germe de ce que l'on appelle nos ateliers pétales. Alors, vous allez me dire atelier pétales.
Oui, c'est quoi? C'est la marguerite
Eh oui, c'est ça, c'est ça, Guy Moïse. Je vois que vous avez déjà regardé sur notre site. Eh bien oui, nous avons mis en place la stratégie dite de la marguerite. Il nous a semblé que le mot marguerite compensait le côté un peu guerrier de stratégie. Donc, stratégie de la marguerite, c'est tout simplement un cœur qui est le conseil d'administration, bien sûr, de l'association. Et puis, des ateliers pétales qui ont pour but d'approfondir un sujet, de s'élargir aux acteurs économiques qui sont concernés par ce sujet. Puis après, de faire une restitution publique et une édition. Donc, on a déjà une édition, deux éditions qui sont sortis issus de ces ateliers pétales.
Alors, moi, j'aimerais qu'on prenne un exemple bien concret, puisqu'on parle en ce moment du primat du financier sur l'économique, malheureusement, la finance qui dirige.
C'était justement le sujet de notre avant-dernier café éthique.
Ben oui, le 23 juin, je peux vous le dire, éthique et marché financier, avec Régis Delagrevol, qui dirigeait la Bourse de Lyon lorsqu'on avait une, et le professeur Jean-Paul Denette, et ce sont des actuaires.
Des actuaires. Alors, c'est comme ça que j'ai appris le métier d'actuaire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est bien.
Alors, donc là, ça va déboucher, ça? Il y a un atelier pétale qui s'est formé sur ce sujet ou pas?
Alors absolument. Donc oui, il s'est formé. Enfin bon, je dois vous avouer qu'il n'a pas travaillé pendant les vacances. On ne va pas jusque là. Notre implication est grande, mais quand même, ça a des limites. Et donc, la première réunion est à la suite de notre café éthique d'aujourd'hui. Donc, c'est en ce moment qu'ils sont en train de se réunir pour approfondir ce sujet-là, qui est un sujet en effet grave et d'actualité.
Donc, ils peuvent bosser là-dessus, phosphoré pendant quelques mois ou quelle est la limite?
L'idée, c'est, enfin, l'expérience montre que un atelier pétale se flétrit au bout de 3 mois. Vous savez, la motivation se décroît. Il y a une loi de la décroissance de la motivation en fonction du temps qui doit avoir été étudiée par je ne sais pas qui, mais qui est tout à fait vrai. Donc, si au bout de 3 mois, un atelier pétale ne s'est pas réuni régulièrement et n'a pas produit quelque chose, on décide de l'abandonner, quitte à le reprendre par la suite après, d'ailleurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout va bien.
Est-ce que ces ateliers pétales ont déjà mené à des publications ou des choses importantes?
Alors, le dernier en date, c'est celui... oui, exactement. Vous savez, la chose écrite, c'est quand même important. Alors bon, là, on est dans la radio, c'est important aussi, la radio,
mais
bon.
Il faut écrire. Il y a les blogs pour ça aujourd'hui.
Oui, d'abord, c'est vrai. Donc, le dernier en date, c'était l'atelier pétale éthique et esthétique du cadre de vie, qui a donné lieu à une publication que je me ferai un plaisir de vous offrir d'ailleurs, hein, avec des grands spécialistes.
Ça, c'est gentil, mais est-ce qu'on peut le trouver en ligne, votre site va jusque-là ou pas encore?
Alors, on fait même mieux. Non seulement on le trouve en ligne, mais on peut même le télécharger en ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'acheter. Si on veut la chose écrite, parce que c'est quand même un petit peu magique le papier, donc on a fait une édition papier qui est vendue 7,50€, histoire de ne compenser les frais, mais vous pouvez parfaitement le télécharger sur notre site www.lyon-éthique.org.
Avec une empreinte carbone tout à fait limitée. Responsabilité sociale, on y revient dans un instant.
Avec GDF Suez, retrouvons le Club Éco animé par Guy Moïse.
Le Béco, on y revient avec Geneviève Brichet, qui préside l'association lyonnaise d'éthique économique et sociale, que vous avez, pendant cette pause, peut-être retrouvée sur Internet, en ligne. Éthique et entreprise, c'est votre activité, c'est votre business.
Ne parlons pas de business. Enfin bon, c'est vrai que ça me permet de vivre. Mais avant tout, c'est... Oui, éthique et entreprise, c'est
démarche,
la société.
Alors,
ouais, c'est un peu ça quand même. Vous savez, j'étais dans la communication préalablement. Donc j'ai vendu la société, l'agence que j'avais créée, parce que j'avais envie de faire autre chose.
L'agence de communication.
Ouais.
Une agence de pub, comme on disait dans le temps.
Non, c'était pas de la pub, c'était du marketing relationnel, Guy Moïse.
Oui, enfin bon, mais je veux dire, dans une galaxie où certains d'entre vous ont eu mauvaise conscience à un moment donné par rapport à la société de consommation.
Oui, vous savez, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, mais bon, c'est vrai que la crise des 50 ans a peut-être fait que j'ai regardé derrière moi ce que j'avais fait et j'avais envie de faire mieux, sans doute. Donc,
aller vers l'entreprise avec quelle démarche?
Aller vers l'entreprise avec une démarche d'éthique. Hein. Le cabinet conseil que je dirige s'appelle Éthique et Entreprise, c'est pas par hasard. Et d'accompagner les entreprises dans leur démarche de responsabilité sociétale. Alors bon, c'est un bien grand mot, hein, responsabilité.
Oui, on distingue d'ailleurs social et sociétal.
Alors, social, ce qui me gêne d'appeler la RSE, puisque maintenant c'est le sigle, vous savez, qui prévaut, ce qui me gêne d'appeler sa responsabilité sociale, c'est qu'on ne voit ici que l'aspect social.
Or, relation sociale.
Voilà,
Derrière, ce qui est important. Profil syndicat, etc.
Oui, mais moi je pense que la responsabilité sociétale doit bien entendu inclure l'aspect, le volet social, parce que c'est sans doute le plus important.
Mais ça va plus loin.
Mais ça va plus loin parce qu'il y a le volet environnemental qui est important aussi. Donc on a l'habitude de dire que la RSE s'appuie sur un trépied qui est le respect de l'environnement, le respect de l'homme, mais aussi le respect de l'économie interne de l'entreprise.
Ce trépied, ces trois piliers qu'on a évoqués, bon, c'était en 2002, hein, au sommet de Johannesburg, c'est
absolument
là qu'on a configuré
absolument
tout ça.
Absolument.
C'est à ce moment-là que vous êtes un peu alerté, sensibilisé, ou c'est plus récent
Vous savez, c'est exactement en 2002 que j'ai monté Éthique et Entreprise, comme par hasard.
Oui, donc c'est le sommet de la Terre de Johannesburg, où on a bien insisté sur ce concept de développement durable qui préexistait, mais... dont on s'est un peu gaussé, dont on a un peu ri pendant quelques années. Aujourd'hui, on le prend plus au sérieux.
C'est-à-dire que pendant longtemps, oui, on s'est un petit peu gargarisé avec de grands mots. On continue d'ailleurs, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, c'est pas rassurant d'ailleurs. On parle beaucoup et on fait peu. Et c'est hélas, et ça c'est vraiment l'essentiel de mon job, ça, c'est de faire en sorte que les mots deviennent des actes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de développement durable, et puis personne ne savait très exactement de quoi il s'agissait. Donc il a bien fallu des gens comme vous, médias, comme moi peut-être à mon petit niveau, pour faire entrer le développement durable dans quelque chose qui est au-delà des grandes théories et qui est des choses extrêmement pratiques, parce que dans les entreprises, mais partout à votre niveau personnel, vous pouvez mettre en place le développement durable, parce que ça ne se fera que si chacun met sa petite pierre à l'édifice, et ça fera un grand bâtiment.
Alors l'éthique dans les entreprises, c'est quelquefois un beau discours, quelquefois ça va plus loin, il y a des chartes, bon, on a eu par exemple à ce micro des exemples, le dernier c'était Philippe Joffard de la FUMA qui a
bien
une
sûr
démarche effectivement assez,
un bon exemple,
assez positive. Vous allez frapper à la porte de l'entreprise, vous dites voilà, coucou, c'est moi l'éthique, ou comment ça se passe?
Là, c'est moi l'éthique, ce serait bien immodeste. Non, bon, enfin, peu importe qui va voir qui. En général, les entreprises...
Est-ce qu'elles sont profilées, les entreprises que vous allez voir, ou est-ce que c'est le hasard qui dicte vos pas?
Alors, je vais vous dire, je crois qu'il y a trois types d'entreprises. Enfin, il me semble par expérience. Avoir découvert trois types d'entreprises, ou trois types d'entreprises qui vont vers cette démarche pour des raisons qui sont différentes. Alors, je vais prendre celle que je préfère, mais qui est en plus petit nombre. Ce sont les chefs d'entreprise qui ont conscience d'être un vrai acteur en tant que chef d'entreprise dans la vie sociale de leur pays, de leur terre, en fin de compte. Et c'est cette conscience qui les incite à mettre en place ces programmes-là. Tout bêtement, parce que peut-être que le matin, ce chef d'entreprise, qui n'en est pas moins un homme, a peut-être un peu disputé son petit garçon parce qu'il avait tapé sur son copain et qu'il laissait traîner les papiers dans sa chambre. Donc il lui a fait la morale au niveau du respect de ses camarades et au niveau du respect de l'environnement. Et puis quand il se trouve arrivé dans son entreprise et faire très exactement le contraire, il se sent peut-être un peu mal à l'aise. Donc il a envie de faire mieux. Donc ça, c'est la première catégorie d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise a décidé que c'était bien de le faire et que le bien commun était important pour lui.
Tout ne va pas bien dans toutes les entreprises et on a des preuves, on en parle dans un instant.
Avec GDF Suez, retrouvons le Club Éco animé par Guy Moïse.
On parle d'éthique ce matin au Club Éco avec Geneviève Brichet qui dirige Éthique et Entreprise. Les entreprises où vous avez de belles rencontres, parfois des patrons qui sont, je ne sais pas, dans la ligne des patrons qui avaient historiquement le sens du social et de leur environnement, comme les Michelin, les Peugeot, un peu paternaliste certes, mais responsable. On en trouve encore ?
On en trouve beaucoup plus.
Ils n'ont pas tout sacrifié au 440 ?
Non, ils ont... c'est très difficile pour eux, parce que l'économie telle qu'elle est, le système économique, n'incite pas à l'éthique. Sinon, en utilisant l'éthique ou les responsabilités sociétales, sinon en l'utilisant de manière, comme un outil marketing, pour se différencier. Alors bon, après tout, pourquoi pas ? L'essentiel, c'est de faire les choses. Après tout, peu importe l'intention. Mais bon, c'est vrai que ceux qui ont une vraie intention... c'est pas facile pour eux.
Alors on va parler malheureusement dans l'actualité de France Télécom, chronique de suicides annoncés à chaque jour ou presque, sa défenestration, son harakiri, ses cocktails médicamenteux. Bon, ce sont toujours des appels au secours et on sait bien que le suicide est multifactoriel. Mais bon, il y a des écrits, il y a des témoignages, on sent qu'il y a un management par la terreur, disent certains, mais enfin un management un peu particulier dans cette entreprise. Est-ce que vous y avez réfléchi, vous, dans votre association lyonnaise d'éthique ou pas ?
Alors, à France Télécom en particulier, non. Je ne me permettrai pas d'entrer dans
cette problématique précise. Hein.
C'est un exemple
de grandes entreprises ex-service public, ex-fonctionnaires qui se retrouvent confrontées aux turbulences.
Alors, moi, ça m'amène à une réflexion qui est que, vous savez, on a souvent diabolisé le privé en disant que c'était là où le stress au travail était le plus important. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Hein. Dans les entreprises dites publiques ou semi-publiques, qui sont dans le même système que les entreprises privées, avec des objectifs de rentabilité, ça se passe de la même façon. Donc c'est plus une question d'hommes qu'une question de catégorie d'entreprise.
C'est peut-être bien là le mot important, les objectifs. Qui fixe les objectifs et quels sont-ils ?
J'ai envie de vous dire, c'est le système économique qui fixe les objectifs. À l'heure actuelle, c'est complètement fou. Après la crise que l'on vient... Enfin, après, j'allais dire pendant. Oui, pendant la crise que l'on est en train de vivre, considérer que vous avez encore des conseils d'administration qui imposent un 15% après impôt à une entreprise, c'est dingo. Et donc, tout le reste va avec, parce que ça veut dire que l'économie n'est plus au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de l'économie. Donc, tous les excès sont possibles.
Alors ça, est-ce que c'est une dérive du capitalisme ou pas ? Certains disent que non. Fondamentalement, le capitalisme est sur des bases beaucoup plus équilibrées, que c'est une dérive des financiers, des ticons, des traders ici ou là. Bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le disiez il y a un instant, il n'y a pas que les entreprises privées. On a vu aussi un taux de suicide dans la police important. Tout ça, c'est peut-être en fait le management qui est en cause aussi. Parce que prendre des décisions, c'est bien. Savoir les faire appliquer, c'est autre chose.
Absolument, et je pense que le management, enfin, dans les écoles de management, hein, nous intervenons, nous, au niveau de l'Association Lyonnaise d'Éthique, et moi j'interviens personnellement à l'EM Lyon, donc l'école de management, qui, elle, a su faire avoir un cursus, enfin une série d'enseignements sur l'éthique. Mais c'est extrêmement rare, vous savez, dans les écoles de management, on leur apprend à être de bons gestionnaires, bien entendu, à développer leur entreprise, mais on apprend très très peu à gérer les hommes, et c'est quand même très dommage. Ou alors on apprend à gérer les hommes comme si les hommes étaient des machines. Or, les hommes ne sont pas des machines. On est plus dans le dur, là, on est dans les sciences molles, et la science molle n'est pas exacte. Donc, il est important que les écoles de management apprennent à leurs étudiants et futurs managers que l'homme, ça doit se respecter, que l'homme, c'est pas une machine.
Je crois que c'est Crédit Agricole qui, il y a quelques années, avait monté une structure justement pour épauler les jeunes cadres qui arrivent et qui ont du stress, évidemment, et qui le font retomber sur leurs collaborateurs. Ça, c'est une démarche qui peut être quoi? D'entreprise, une démarche personnelle des cadres? Comment corriger?
Je pense que l'entreprise, et donc j'en reviens à la RSE, l'entreprise doit être baignée dans ses valeurs de respect de l'homme, de l'environnement, on a vu tout à l'heure, mais là on parle de l'homme. Donc la direction de l'entreprise, le CODIR, hein, le comité de direction, doit être capable former ses cadres à un management plus participatif, à un management plus humain, tout bêtement. Hein. Ça ne peut pas être qu'une démarche individuelle. Ça doit faire partie de la stratégie de l'entreprise. Parce que n'oublions pas quand même que la force de travail d'une entreprise, c'est bien sa richesse avant tout.
Avec GDF Suez, retrouvons le Club Éco animé par Guy Moïse.
Club Éco avec Geneviève Brichet aujourd'hui pour parler d'éthique, éthique et entreprise. Avec, on l'a vu il y a un instant à propos du cas France Télécom, mais d'autres aussi, hein, Renault, Peugeot, la police, IBM il y a quelques années. Bon, le stress des salariés qu'on mesure d'ailleurs, hein, au plan national, je crois qu'il est de 25% aujourd'hui de salariés qui se disent stressés, 40% dans certaines entreprises.
Ouais, ça monte jusque-là.
Voilà. Donc, la question, il y a tout de même bien des outils, des thermomètres pour prendre la température dans les entreprises, je me souviens avoir vu dans une entreprise le CHSCT,
oui.
Comité
d'hygiène, sécurité.
Sécurité, etc. Alors, ces gens-là, bon, ils se bougent ou pas dans l'entreprise?
Alors, je vais vous dire une chose, Guy Moïse. Le problème, c'est que nous avons plein d'outils à disposition. Vous avez cité le CHSCT, mais il y a plein d'outils, il y a plein de lois avec des décrets d'application qui devraient s'appliquer dans les entreprises. Le problème, c'est qu'on est noyé sous tous ces outils et il nous manque une chose qui est la prise de conscience des hommes que ce ne sont pas simplement des outils obligatoires qu'il faut mettre en application, mais c'est que c'est simplement une nécessité vitale pour l'entreprise. Donc, bien entendu, les CHSCT, ça existe. Bien entendu, on fait attention à la sécurité, mais on le fait de manière comme si c'était un devoir, enfin comme si c'était obligatoire, alors que ça devrait être spontanément la règle dans une société que de prendre garde quand même à la sécurité de ses salariés. Donc c'est à mon avis trop encadré. Alors vous allez me dire, si c'est pas encadré, ça va pas exister. Donc c'est vrai qu'on a un gros problème.
Alors, quelle serait la solution, en fait? Il ne s'agit pas uniquement effectivement de remplir un panneau d'affichage dans un couloir.
Non, loin
de
là.
C'est de mettre des capteurs, des observateurs, des...
Être à l'écoute. Vous avez dit une chose qui est importante quand vous parlez de capteurs, c'est être à l'écoute. Un DRH et même une direction d'entreprise doit être à l'écoute de ses salariés.
Le DRH, il est dans son bureau, etc. Comment ça se passe?
Non, il faut pas qu'il... Un DRH, ça ne doit pas être dans son bureau. Ça, c'est pas possible. Un DRH, il doit être parmi les salariés. Mais d'une manière générale, hein, la direction d'une entreprise doit être à l'écoute de ses salariés, à l'écoute de cette... Alors, pas simplement à l'écoute parce qu'elle va aller les écouter, c'est nécessaire, et puis à l'écoute via en effet des observatoires, via des choses toutes bêtes qui sont les boîtes à idées, qui sont quelque chose qu'on appelle les entretiens d'évaluation annuels.
Oui, il y a bien des instruments de mesure qui existent.
Il y a plein d'instruments de mesure, mais encore une fois, essayons de dépasser cette notion d'instrument pour aller vers l'homme. C'est pas simplement un outil que l'on a pour aller vers quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas. Enfin, un homme, on peut communiquer avec lui de façon simple.
Oui, alors pourquoi la machine à café, par exemple, c'est un bon outil,
La machine à café, c'est aussi un bon outil, absolument.
Pour la détection des tensions, des conflits internes, parce que ça, c'est, là encore, il faut anticiper, quoi. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un abcès.
Bah, le problème de l'entreprise au niveau des conflits internes, c'est souvent un problème de hiérarchie. Alors, le problème de hiérarchie, soit c'est un problème d'homme, soit c'est un problème de mauvaise définition de fonction des hommes. Donc, si un homme ne sait pas ce qu'il a à faire très précisément en termes hiérarchiques et en termes de travail, forcément, il va se sentir mal et forcément, il va être en conflit avec son supérieur hiérarchique direct. Donc, déjà, commençons à dire à chacun quelle est sa place dans l'entreprise, trouver sa place dans l'entreprise et ce qu'il fait au service de son entreprise, ce qu'il doit faire et ce pourquoi il est payé, parce qu'il y a quand même un échange ici, et je pense que déjà ça devrait aller beaucoup mieux.
Alors ces problèmes, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ils ne sont pas nouveaux. Il y a toujours eu du caporalisme dans les entreprises, des petits chefs, des gens dont vous avez envie d'avoir le portrait ailleurs que voilà, devant vous. Comment faire pour pallier ces changements organisationnels incessants, bon, qui est le cas de France Télécom, les gens on les passe d'un poste à l'autre, etc. Comment faire pour... on ne peut pas imposer ça, l'entreprise est libre de ses choix tout de même. Alors c'est la moralisation encore une fois.
Non, l'entreprise est parfaitement libre de ses choix et pas totalement libre dans la mesure où, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, elle est dans un système économique qui lui impose un certain nombre de normes auxquelles elle doit se conformer. Ceci dit, à l'intérieur de ces contraintes, l'entreprise est totalement libre en effet de se manager comme elle le sent. Et le rôle du directeur, enfin du management de l'entreprise est extrêmement important pour donner une direction. Ne serait-ce que, il y a une chose importante pour un salarié, savoir quel est le sens de son travail. On parle beaucoup de sens, mais c'est vrai que quand on ne sait pas pourquoi on travaille, à quoi ça sert, et quel est le résultat escompté de son travail, on se sent mal à l'aise. Donc le stress monte parce qu'on ne comprend pas. Et je reviens à ces définitions de fonction. Quand on ne comprend pas ce pourquoi on est jugé ou bien ou mal, le stress monte forcément. Donc donnons du sens au travail de chacun dans l'entreprise. Et ça, c'est en effet un problème de management.
Donc du sens, mais pas nécessairement au sens giratoire du terme, mais du contenu, enfin quelque chose.
Du contenu, savoir pourquoi on travaille, savoir à quoi ça sert. Dans une entreprise qui fait de la RSE, il y avait une deuxième catégorie d'entreprises. J'ai parlé de la première tout à l'heure, qui étaient les managers qui étaient convaincus que ça devait le faire comme ça. Mais il y a une deuxième catégorie d'entreprises qui sont celles qui ont des choses à se reprocher en termes environnementaux. C'est vrai que mettons-nous à la place du salarié qui est dans cette entreprise, qui est mal jugé, mal considéré par ses concitoyens, il se sent mal lui aussi parce qu'il se dit, mais quelle est ma place, quel est le sens que je vais donner à mon travail pendant 7 heures et quelques, je vais être au service de cette entreprise et je ne comprends pas, mis à part le fait qu'elle me donne de quoi vivre à la fin du mois, je ne comprends pas pourquoi je viens et je ne suis pas fier de ce que je fais. Donc ça, c'est terrible. Donc il y a aussi beaucoup d'entreprises de ce type-là qui font des efforts au niveau de la RSE pour moraliser un petit peu leur activité. Alors bon, ça ne va pas jusqu'aux ventes d'armes, parce que les ventes d'armes, là, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Donc je ne parle pas de cette moralisation-là, mais ne serait-ce qu'au niveau de la pollution de l'environnement, avoir d'une charte de bon comportement et l'appliquer, ça permet non seulement de dire à son public, regardez, je suis une entreprise éthique, mais en plus, ça permet de donner à l'interne, aux salariés, une fierté pour leur entreprise qui est le gage de moins de stress, en tout cas. Hein. Je ne peux pas dire qu'il n'y en ait plus, mais un peu moins.
Merci, Geneviève Brichet.
Club Echo vous a été proposé par GDF Suez. Vous voulez savoir ce qui se prépare ? Ceux qui se décident, entrez au Club Echo. Chaque mardi midi, mercredi 18h, rendez-vous avec Guy Moïse et ses invités.